VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Au moins 7 personnes ont été tuées jeudi soir et 11 blessées par la chute d'un câble électrique au Nigeria alors qu'ils regardaient un match de la Ligue des Champions à Calabar dans le sud du pays, indiquait la police. Aujourd'hui même, l'agence de presse nigériane, la NAN, avance quant à elle un bilan de 30 morts. L'accident est survenu jeudi soir alors que des supporters de Manchester United et d'Anderlecht s'étaient rassemblés dans la rue pour regarder le quart de finale de la Ligue des Champions à la télévision. Au Cameroun, la connexion Internet a été rétablie jeudi dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après 3 mois de suspension, la mesure avait été imposée suite aux manifestations et grèves générales des anglophones qui s'estiment marginalisés. Certains réclamant même le retour au fédéralisme ou à la sécession. Le ministre camerounais de la communication, Issa Bakary Chiroma, situe aussi les enjeux de cette normalisation.
La menace sécessionniste n'existe plus. L'excitation et l'invitation à la violence, à l'insurrection, à l'incivisme, tout ça, ça a donc pratiquement disparu. Mais le chef de l'État instruit nos populations de demeurer vigilantes. Parce que dès lors que ces menaces pointent à nouveau à l'horizon, le gouvernement n'aura pas de choix. Au nom de la protection de l'intégrité physique de notre pays, de l'ordre établi, le gouvernement n'aura pas de choix que de revenir à nouveau sur la sécession de l'opérationnalisation de Internet. Quand on parle de la protection de l'intégrité physique, quand on parle de la protection de la paix, l'argent ne compte pas. L'argent ne compte pas parce que accumuler les milliards du monde entier, s'il n'y a pas consensus, si le peuple n'accepte pas, ces milliards n'auront servi à rien du tout. C'est vrai que la cessation du fonctionnement d'Internet a impacté l'économie, mais le gain en termes de protection de l'intégrité physique, de vouloir vivre ensemble, la paix et le retour à la normale sont de loin plus importants que les gains économiques.
Issa Bakary Chiroma, le ministre camerounais de la communication. Nouvelle tractation en RDC après l'échec de la médiation des évêques catholiques. La SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe, s'est invitée dans les efforts de médiation. Le point tout de suite avec Eddy Sango.
Les ministres des Affaires étrangères de la SADC ont entamé hier à Kinshasa les consultations avec les parties congolaises au dialogue. Après les représentants de la famille politique du président Joseph Kabila, ils ont reçu l'opposition. Mais la réunion avec les rassemblements a provoqué un incident qui a été vite résolu en fin de journée. La branche dirigée par Félix Tshisekedi a quitté les lieux, jugeant insultant que la SADC rencontre l'aile conduite par Joseph Olengankoy. C'est plus tard dans la soirée qu'ils ont été reçus. Pour eux, l'accord du 31 décembre doit être appliqué. Pour les autres, seule la question du président du Conseil des suivis de la transition et la signature des arrangements particuliers restent à résoudre. 2 jours plus tôt, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, Mamman Sidoukou, avaient lui aussi lancé des bons offices.
Israël a ouvert aujourd'hui le point de passage de tabac vers le Sinaï égyptien après plus d'une semaine de fermeture en raison du risque d'attentat, tout en déconseillant à ses citoyens de se rendre à la péninsule. Ce point de passage avait été fermé le 10 avril à la suite d'un tir de roquette tiré depuis le Sinaï égyptien vers le sud d'Israël et revendiqué par le groupe État islamique dont une branche locale est active dans le nord de la péninsule.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a affirmé aujourd'hui, lors d'une visite en Israël, qu'il n'y avait pas de doute que le régime syrien de Bachar al-Assad a conservé des armes chimiques. S'exprimant devant la presse, en présence du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, M. Mattis a mis en garde le régime syrien contre un recours aux armes chimiques après l'attaque chimique présumée du 4 avril sur une localité du nord de la Syrie. Ici même aux États-Unis, les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche ont été assombris par plusieurs enquêtes sur une éventuelle interférence de la Russie dans les élections américaines. Beaucoup de questions sont restées sans réponse à ce propos. Le point avec Lionel Gaïma.
Le 10 janvier, les hauts responsables des renseignements américains ont témoigné pour la première fois devant une commission du Sénat sur les efforts russes en vue de saboter la dernière présidentielle américaine. James Clapper, ancien directeur des services secrets. Nous croyons fortement que le président Poutine a ordonné une campagne d'influence en 2016. Ses objectifs étaient d'amoindrir la foi au processus démocratique américain, dénigrer Hillary Clinton et réduire ses chances à la présidence. M. Poutine et le gouvernement russe ont affiché une nette préférence pour Trump, le président élu. Il y a beaucoup d'accusations, mais très peu de preuves dans le plus gros scandale à secouer Washington depuis plusieurs années. Après plusieurs semaines, il y a eu la démission du conseiller de Trump à la sécurité nationale, le limogeage de la ministre intérimaire de justice et la décision du président de la commission du renseignement de la Chambre de se récuser de ses enquêtes liées à ce scandale. Finalement, le directeur du FBI rend public ce qui était déjà l'objet des supputations en disant que son agence avait commencé une enquête sur la Russie en juillet dernier. J'ai obtenu le feu vert du ministère de la Justice pour que le FBI mène des enquêtes sur les efforts du gouvernement russe visant à interférer dans les élections de 2016, ce qui inclut la nature éventuelle entre des individus associés à la campagne de Trump et le gouvernement russe. Donald Trump a qualifié ces accusations de canulars, affirmant que le vrai scandale, c'est la surveillance que l'administration Obama aurait ordonnée sur lui et ses associés pendant la campagne de l'année dernière. Ce sont des fausses nouvelles. Mais pour Richard Benveniste, ancien procureur dans le scandale de Watergate, l'enquête sur Trump, c'est du sérieux. Ça met en relief les vulnérabilités de notre démocratie et des autres démocraties dans le monde sur des techniques d'interférence, le piratage informatique, la désinformation et plusieurs sortes de perturbations dont nous devons être protégés. Et les parlementaires américains veulent aller jusqu'au bout et aussi longtemps que cela prendra. Richard Burr, président de la commission du Sénat sur le renseignement. On ne dira jamais assez ce que la mission de la commission, qui est de passer à la loupe toutes les activités que la Russie a pu mener pour altérer ou influencer les élections de 2016 aux États-Unis. Et la commission sénatoriale sur les renseignements est l'une des cinq entités qui doivent regarder de plus près cette interférence russe. Cet employé de cette commission doivent passer en revue des milliers de documents classés secrets. Une vingtaine de témoins seront interrogés, dont Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump. Le FBI a refusé de commenter, mais le mois dernier, son directeur James Comey a affirmé qu'il est franchement impossible de dire le temps que l'enquête prendra.
Près de 47 millions d'électeurs sont appelés à voter pour le premier tour le 23 avril et au second tour le 7 mai pour élire le nouveau président de la République française, appelé donc à succéder au socialiste François Hollande. Les électeurs devront choisir entre 11 candidats, un de plus qu'en 2012, mais 5 de moins qu'en 2002, année record en termes de candidature. Par ailleurs, l'attaque sur les Champs-Élysées à Paris, qui a coûté la vie jeudi soir à un policier, a tendu la campagne présidentielle et replacé les débats sur la lutte antiterroriste au cœur de l'élection à 2 jours seulement du premier tour. La fusillade revendiquée par le groupe État islamique à l'origine de la plupart des attentats qui ont fait 238 autres morts depuis 2015 en France a blessé 2 autres policiers et une touriste allemande, selon une source policière. Une femme blessée le 3 avril dans l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg en Russie est décédée aujourd'hui, portant donc le bilan de cette attaque à 15 morts. 23 personnes blessées dans l'attentat à la bombe restent en soins dans les hôpitaux de l'ancienne capitale impériale, dont 4 dans un état grave, selon les médecins. Le patron des services de sécurité russe, Alexandre Bornikov, a annoncé hier avoir quasiment identifié le ou les commanditaires de l'attentat jusqu'à présent non revendiqué, et cela sans plus de précision. Et santé, on finit avec la santé. Quelque 325 millions de personnes dans le monde vivent avec une infection chronique d'hépatite B ou C. Et le hic, c'est que très peu de personnes le savent, selon des chiffres publiés aujourd'hui même par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, qui réclame un plan global pour lutter contre ces maladies virales, la majorité de cette population n'est pas testée et n'a pas accès au traitement et par conséquent, des millions de gens risquent de développer une maladie chronique du foie ou un cancer et même d'en mourir. Le virus de l'hépatite tue environ 1,34 million de personnes par an, un nombre comparable aux décès dus à la tuberculose ou au sida. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Bon week-end à vous. On se retrouve à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.